Il est 8h à Londres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'écoute d'RFI. 9h à Paris, 7h temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Marion Cazeneuve.
Bonjour Nathalie.
Dernier jour de campagne au Royaume-Uni, les Britanniques votent demain pour les législatives.
Et les travaillistes s'apprêtent à retourner au pouvoir après les 14 ans de règne des conservateurs. En France, encore quelques jours pour tracter, débattre, convaincre avant le second tour des législatives, dimanche. Au Bénin, les autorités tentent de comprendre ce qui arrive aux ananas pains de sucre. Ils ont été retirés des rayons des supermarchés en France à cause d'une contamination chimique et il faut réagir vite car le Bénin en exporte 1000 tonnes par an, rien que vers l'Union européenne. Et puis en football, cap vers les quarts de finale de l'Euro. En Allemagne, la Turquie est la dernière nation à s'être qualifiée hier soir.
Le Royaume-Uni a 24 heures d'élections historiques.
Des législatives où les Britanniques devraient tourner la page de 14 ans au pouvoir des conservateurs et donc marquer ainsi le retour des travaillistes. Julien Chavanne, vous êtes en direct de Londres. Vous suivez ce dernier jour de campagne au Royaume-Uni et donc les Tories s'apprêtent à vivre une défaite cuisante.
Oui, rien ne semble pouvoir stopper l'hémorragie. Rishi Sunak n'est même pas assuré d'être réélu. Le Premier ministre a tout bonnement nagé à contre-courant durant cette campagne en forme de chemin de croix pour les conservateurs, marqué par des sondages toujours plus mauvais, des scandales dont il se serait bien passé. L'ancien banquier paie aussi les errements des Tories ces dernières années, sans compter le populiste Nigel Farage qui lui grignote des voix. Aujourd'hui, l'objectif ce n'est plus de gagner les élections, mais de limiter la casse. Écoutez le bilan très sévère dressé par ce Britannique croisé hier.
Les Tories n'ont rien fait pour aider les gens sur les vrais sujets, particulièrement sur le coût de la vie. Donc c'est le moment pour que ça change.
Et change, c'est d'ailleurs le slogan de la gauche. Le Labour est aux portes du pouvoir, Julien.
Keir Starmer, le chef de file du Labour, s'y prépare. L'ancien avocat a mené une campagne sans éclat mais sans dérapage, prudent jusqu'à parfois être flou dans son programme. Il a tellement recentré le parti que le Labour ne fait même plus peur aux marchés financiers. Le voilà soutenu par le Financial Times ou The Economist. Keir Starmer est souvent présenté comme un candidat trop lisse, mais c'est justement ce qui plaît aujourd'hui. Les Britanniques veulent de l'apaisement comme AJ.
Les 14 dernières années, tout a tourné autour des personnes, du populisme, et sans service public digne de ce nom. Les gens disent que Keir Starmer est ennuyeux. Mais moi, ça me va très bien, tant qu'il fait de bonnes choses pour le pays et qu'il gouverne efficacement. C'est tout ce que je demande.
Et alors, Julien, est-ce que l'élection est jouée d'avance ?
Alors encore un peu de prudence, la performance des travaillistes va dépendre de la mobilisation de ses électeurs. C'est pour ça d'ailleurs que le Labour a battu le rappel ces dernières heures. Et puis il faudra aussi regarder de près le score des libéraux-démocrates. Les centristes pourraient être les autres gagnants du vote en récupérant les électeurs conservateurs déçus. Les Lib Dems se rêvent déjà en première force d'opposition au Parlement.
Julien Chavanne, envoyé spécial de RFI à Londres.
Les Français se rendront aux urnes trois jours plus tard, dimanche, là aussi pour des législatives.
Le second tour des législatives. La fin du dépôt des candidatures, c'était hier soir et au moins 214 candidats du camp présidentiel ou de l'alliance de la gauche se sont désistés dans des triangulaires ou quadrangulaires. L'objectif est d'éviter que les voix ne se dispersent et ne profitent à l'extrême droite et donc d'empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée. Le RN, dont un axe du programme fait tout particulièrement polémique dans cette campagne, le patron du parti Jordan Bardella veut exclure les Français binationaux de certains postes jugés sensibles, par exemple pour diriger des centrales nucléaires, pour travailler dans les renseignements. Et cela inquiète ou du moins interroge les binationaux, Pierre-Olivier.
Abdoulaye Kanté est policier franco-malien. Pour lui, il faut d'abord lutter contre l'idée même qu'un binational est un suspect potentiel.
Je pense qu'il faut faire très attention de ne pas amalgamer en fait. Parce que vous savez, en ce moment, on est dans une société qui essentialise beaucoup, qui amalgame. Et je pense qu'il faut faire très attention parce que vous avez des gens qui ont la France chevillée au corps, mais aussi ils ont une deuxième patrie. Mais pour autant, il faut qu'on évite cette espèce qu'on appelle le conflit de loyauté.
Abdoulaye Kanté dit ne pas être inquiet en tant que binational.
Tant que je respecte les valeurs de la République, tant que je respecte les lois de ce pays, il n'y a pas de raison d'avoir peur.
La cinéaste franco-iranienne Sepide Farsi, elle, est plus inquiète. Elle craint qu'en s'attaquant aux binationaux, le RN ouvre la boîte de Pandore.
Regardez, en Iran, par exemple, les femmes ne peuvent pas avoir un certain nombre de postes. Ça s'est fait en 79, et ils ont changé la constitution. Alors au début, ça avait l'air pas grave, mais si, c'est extrêmement grave. Et il ne faut même pas ouvrir la porte, et c'est extrêmement dangereux. Je trouve ça hallucinant. Cette expression de préférence nationale, pour moi, c'est une expression fascisante.
Selon les derniers chiffres officiels, la France compterait 3 300 000 binationaux. Le Rassemblement national assure que seule une part microscopique d'entre eux serait concernée par des exclusions de poste.
Encore beaucoup d'inconnus en France avant dimanche et même après, tandis qu'aux Pays-Bas, Marion, c'est la fin de l'incertitude. Le gouvernement vient de prendre ses fonctions.
Le nouveau Premier ministre Dick Schoof a été investi hier. Il a reçu la clé du bureau, la clé remise par son prédécesseur Mark Rutte, qui lui est reparti à vélo dans les rues de La Haye. Après la victoire de l'extrême droite lors des dernières législatives, c'est un gouvernement de coalition qui est donc au pouvoir. L'extrême droite, le PVV, a dû mettre de l'eau dans son vin pour la construire. Il lui aura fallu 6 mois, Pierre Benazet.
Le PVV, le Parti pour la Liberté, n'aura pas les coudées franches au sein de ce gouvernement de coalition. Pour preuve, Geert Wilders ambitionnait de devenir Premier ministre. Il a dû y renoncer afin de parvenir à signer un accord de gouvernement avec les 3 autres partis de la coalition. Il a obtenu pour son parti le ministère qu'il souhaitait, asile et migration, avec au programme durcissement de la politique d'asile et tentative de sortir des politiques migratoires européennes. Une priorité pour Geert Wilders, comme l'illustrent ses propos le 22 septembre 2021. Au Parlement.
Non seulement les Pays-Bas sont pleins, mais notre population est remplacée, échangée par des immigrants qui portent souvent le voile. Ainsi, dans nos 3 grandes villes, Amsterdam, Rotterdam et La Haye, plus de la moitié des enfants qui naissent aujourd'hui sont d'origine non occidentale. Pas besoin d'être un génie de la démographie pour comprendre que si nous ne renversons pas la vapeur maintenant, nous deviendrons bientôt des étrangers dans notre propre ville, dans notre propre pays.
En revanche, l'accord de coalition doit être absolument respecté au risque de faire exploser le gouvernement. Et Geert Wilders a dû par exemple accepter à contre-cœur la poursuite du soutien militaire à l'Ukraine. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
L'Ukraine où s'est rendu Viktor Orban, Premier ministre hongrois. C'est son premier déplacement à Kiev depuis le début de la guerre en Ukraine. Orban ne cache pas sa proximité avec Moscou. Il inquiète ses partenaires européens puisqu'il vient de prendre la présidence tournante de l'Union européenne. À Kiev, Viktor Orban a réclamé un cessez-le-feu avec la Russie, ce qui n'est pas la position européenne. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, lui a d'ailleurs proposé de s'aligner plutôt sur les démarches de paix ukrainiennes.
Aux États-Unis, c'est toujours la panique chez les démocrates.
Après la mauvaise performance de Joe Biden, le président, lors de son débat contre Donald Trump la semaine dernière, où il paraissait affaibli, un peu perdu, à tel point que de premières critiques fusent publiquement dans son camp, l'appelant pour certains à renoncer à se présenter face à Trump.
Donald Trump soulagé pour quelques mois sur le plan judiciaire.
Et dans le procès de l'affaire Stormy Daniels, cette ancienne actrice de film X, elle affirme avoir été payée pour garder le silence sur une relation sexuelle avec Donald Trump. Il est reconnu coupable de falsification comptable de 34 chefs en tout dans cette affaire. Sa sentence, elle, ne sera annoncée que le 18 septembre. Elle a été repoussée. Le 18 septembre, c'est juste après la primaire du Parti républicain. De quoi lui permettre de poursuivre confortablement sa campagne, Nicolas Falaise.
Cette sentence reportée, c'est la première conséquence concrète de la décision de la Cour suprême des États-Unis qui, cette semaine, a étendu l'immunité présidentielle de Donald Trump. Car même si l'affaire Stormy Daniels s'est déroulée avant son élection à la Maison-Blanche en 2016, Donald Trump était bel et bien président lorsqu'il a falsifié ses comptes pour dissimuler le paiement d'argent à la star du porno afin qu'elle garde le silence sur leur relation. C'est pourquoi les avocats de Donald Trump demande l'annulation du verdict dans cette affaire. Selon eux, l'accusation s'est appuyée sur des éléments couverts par cette fameuse immunité que la Cour suprême vient de redéfinir. Pour l'instant, la justice ne s'est pas prononcée sur la demande d'annulation, mais elle se donne du temps pour l'étudier et reporte donc en septembre la sentence qui était prévue la semaine prochaine. Un obstacle de moins pour Donald Trump sur la route de Milwaukee, où débutera à la mi-juillet la convention républicaine qui doit officiellement faire de lui le candidat du parti à l'élection présidentielle de novembre.
Nicolas Falaise, de vives tensions en Turquie et dans le nord de la Syrie.
En Turquie, 474 personnes ont été arrêtées dans des émeutes anti-syriennes. Cela fait suite à l'arrestation d'un Syrien soupçonné de harcèlement sur une enfant de son entourage. En Syrie, ces violences anti-syriennes ont déclenché des manifestations, notamment contre des positions militaires turques à la frontière. 7 personnes ont été tuées, 20 autres blessées au moins. Paul Khalife.
Les manifestations anti-turques ont éclaté presque simultanément en 15 points différents. Le principal foyer était situé à Afrin, un ancien fief kurde. D'importants heurts se sont également produits à l'ouest d'Alep, dans des régions contrôlées par les djihadistes de Hayat Tahrir Sham. Les cibles privilégiées des manifestants, dont une partie portait des armes, étaient les positions militaires et les symboles de l'influence turque, les points de passage frontaliers entre les deux pays, ainsi que les camions et véhicules immatriculés en Turquie. La rapidité avec laquelle le mouvement de protestation s'est propagé et un mode opératoire globalement identique mis en œuvre par les manifestants suscite un certain nombre de questions sur le caractère spontané de ces manifestations. Même si les images des violences antisyriennes en Turquie ont provoqué la colère d'une grande partie de la population à Alep et à Idlib, un mouvement de cette ampleur nécessite un minimum de planification et d'organisation. Ces protestations interviennent dans un contexte particulier, quelques jours seulement après des propos jugés conciliants du président Recep Tayyip Erdogan à l'intention de son homologue syrien Bachar el-Assad. Les principaux perdants d'un éventuel rapprochement syro-turc seraient les Kurdes et les djihadistes. Et c'est justement dans des zones d'influence de ces acteurs que les heurts les plus importants se sont produits. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
En Inde, un nouveau bilan fait état de 121 morts dans une bousculade survenue hier dans l'état de l'Uttar Pradesh. C'était lors d'un rassemblement hindou où 250 000 personnes étaient présentes, soit plus du triple de ce qui était autorisé.
RFI 8h11 à Cotonou, le Bénin, où les autorités prennent très au sérieux l'affaire des ananas peints de sucre.
Cette variété très réputée, mais voilà, des kilos et des kilos de ce fruit ont été rappelés dans des supermarchés de France. La raison, une contamination chimique ou une concentration élevée de résidus de pesticides. Le directeur de l'Agence de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin est en garde à vue depuis vendredi. Les autorités veulent réagir vite pour éviter de compromettre le sujet des ananas béninois. À Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
Le directeur général et un de ses collaborateurs entament ce mercredi leur cinquième jour de garde à vue. Quelques jours avant, il a été relevé de ses fonctions pour faute lourde. Son agence avait la charge de délivrer de commercialisation des produits agroalimentaires et agricoles. Le rappel massif de la cargaison signifie qu'il y a eu un souci au niveau des contrôles au départ du Bénin. Qui a failli dans la chaîne, c'est ce que recherche la police judiciaire. Selon nos informations, la cargaison d'ananas incriminée est estimée à un peu plus de 3 tonnes. Vers l'Union européenne, le Bénin exporte plus de 1000 tonnes. La vigilance est redoublée depuis cet incident. Une campagne de sensibilisation et de recyclage des exportateurs et agents d'inspection se prépare sur les exigences et les normes du marché international. Le pain de sucre, une variété rare et très appréciée, est vendu aux États-Unis et en Europe. Il est arrivé sur le marché chinois en novembre 2023. Jean-Luc Aplogan, Cotonou. RFI.
Les sports, l'Euro de football, Marion, quelques jours de repos pour faire passer les courbatures.
Et revenir en forme pour les quarts de finale. On connaît les 8 équipes engagées, les Pays-Bas et la Turquie se sont qualifiées hier soir. Les images fortes de ces 8e de finale résumées par Antoine Grenier.
Un but, des larmes et une bicyclette. Au rayon des souvenirs, ces 8e de finale de l'Euro laisseront le 2e but le plus rapide de l'histoire de la compétition, celui de Merih Demiral pour la Turquie à la 58e seconde du match contre l'Autriche. Ce but-là permet aux Turcs d'atteindre les quarts de finale de l'Euro. Les larmes, celles de Cristiano Ronaldo, 39 ans, plus de 200 sélections, et toujours l'émotion qui affleure sous le maillot de son équipe nationale. Après son pénalty raté face à la Slovénie pendant la prolongation, CR7 s'effondre en pleurs, consolé par ses coéquipiers. Des larmes séchées quelques minutes plus tard après une séance de tirs au but remportée par les Portugais. Un Ronaldo réconforté, un Bellingham triomphant, bras écartés face aux tribunes. Le numéro 10 anglais portant à lui seul les espoirs des Sri Lions. Bellingham, auteur d'un retourné acrobatique à la dernière seconde du temps additionnel du match face aux Slovaques, offrant à l'Angleterre une prolongation qui lui permettra d'aller chercher la qualification pour les quarts. Un stade de la compétition que ne verra pas l'Italie. Autre moment fort, l'abattement italien au coup de sifflet final du match contre la Suisse. Est symbolisé par Gianluigi Donnarumma, le gardien italien, héros du sacre de l'Euro 2020, impuissant à stopper la déroute italienne 3 ans plus tard. Antoine Grenier, Hambourg, RFI.
En cyclisme, Tadej Pogacar creuse son avance sur le Tour de France. Il a remporté hier la 4e étape à Valoire et a repris le maillot jaune. Les coureurs cyclistes vont poursuivre aujourd'hui leur périple dans les Alpes. La 5e étape aujourd'hui démarre à Saint-Jean-de-Maurienne pour s'achever 177 km plus tard près de Lyon. RFI Matin, ça continue avec vous Nathalie Amar.
Merci Marion Cazanov. 9h15 à Paris. À suivre la revue de la presse internationale et notre question d'environnement en cette journée mondiale sans sac plastique. Bilan avec Igor Strauss de l'interdiction des sacs jetables en France. Mais d'abord, entretien exclusif sur RFI avec le Premier ministre haïtien. Gary Conny, qui est en voyage aux États-Unis, c'est sa première visite à l'étranger depuis sa prise de fonction en juin. Avant de rejoindre New York, il était hier à Washington où il s'est entretenu notamment avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, notamment aussi avec des partenaires internationaux sur les questions financières. La priorité pour lui, c'est le rétablissement de la sécurité dans un pays, Haïti, dont la majorité du territoire est contrôlée par les gangs. Gary Conny, entretien exclusif pour RFI avec notre envoyé spécial permanent à Washington, Guillaume Nodin.
Bonjour Gary Conny.
Bonjour.
Vous avez été nommé il y a tout juste un mois, c'est votre premier voyage officiel. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Washington? Des appuis financiers, des conseils pour diriger Haïti?
Nommé depuis un mois, mais installé, ça fait à peu près 2 semaines. Et j'ai un gouvernement, ça fait un peu plus d'une semaine et demie à peu près. La démarche de Washington rentre dans le cadre d'un effort que nous sommes en train de faire pour regalvaniser dans une certaine mesure la communauté internationale autour du dossier haïtien. Un, pour rappeler la situation d'Haïti, où 80% du territoire, de la zone métropolitaine est contrôlée par le gang, où la moitié de la population est en insuffisance alimentaire, où nous avons des problèmes qui sont très, très sérieux. Donc, ça fait partie de la démarche que nous sommes en train d'entreprendre pour nous assurer que la communauté internationale continue à nous accompagner.
Vous avez promis que l'État haïtien reprendrait le contrôle des quartiers occupés par les gangs avec l'appui de la mission internationale de soutien à la police nationale haïtienne. Il y a un premier contingent de policiers kényans qui est arrivé la semaine dernière à Port-au-Prince. Combien sont-ils à ce jour sur le sol haïtien ?
Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de manière significative.
Oui, car 2500 policiers de la force internationale doivent arriver à terme. Quand est-ce qu'elle sera au complet?
C'est un processus qui est en cours. Je préfère ne pas parler de date exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires haïtiens sont très engagés et sont en train de prendre toutes les dispositions pour que ça se fasse le plus rapidement que possible.
Oui, il y a des problèmes logistiques, des problèmes de logement, notamment pour ces policiers kényans.
Ce genre d'opération, en général, il y a toujours énormément de choses que nous devons résoudre, mais ce que moi j'ai vu et ce qu'on a compris dans les conversations que nous avons avec nos partenaires, c'est qu'ils comprennent bien l'urgence et ils se sont très engagés à pouvoir offrir le support et l'appui qu'il faut pour que ça se concrétise.
Pour l'heure, ces policiers kényans notamment font quelques patrouilles, mais il n'y a pas d'opération d'envergure. Quand est-ce que cette force va commencer réellement à remplir ses missions?
La mission de cette force est évidemment d'accompagner la police nationale qui n'a jamais cessé de faire des opérations. Donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée d'Haïti. Donc c'est nous qui allons décider à quel moment, dans quel contexte et comment cet accompagnement sera nécessaire ou à une valeur ajoutée. Évidemment, nous allons discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider.
2500 hommes pour appuyer une police qui est en sous-effectif. En face, on estime qu'il y a plusieurs milliers de membres des gangs. Est-ce que c'est suffisamment dimensionné?
Je pense qu'il y a 3 considérations. La première, c'est que la sécurité, ce n'est pas seulement une affaire de police. C'est une intervention qui doit être beaucoup plus complète. Et le succès de l'opération ne peut que se matérialiser. La pérennité de l'intervention ne pourra se matérialiser que lorsqu'on aura pleinement réconcilié la police avec la communauté. Donc nous, quand on envisage les efforts que nous sommes en train d'entreprendre, on a cette vision-là. Il nous faut vraiment renforcer la capacité de notre police. Et ce que ces contingents nous permettent de faire, c'est de nous appuyer en même temps que nous sommes en train de renforcer nos effectifs. On vient de graduer 455 policiers et des forces spécialisées. On va continuer à le faire de manière systématique. Donc, ce n'est pas une fin, l'accompagnement de la mission. C'est surtout, si vous voulez, un accompagnement bien spécifique et limité dans le temps, on l'espère, qui nous donne l'espace qu'il nous faut pour renforcer nos propres capacités.
Est-ce que cette lenteur relative du déploiement de la mission internationale de soutien, est-ce que cette lenteur permet aux gangs de s'adapter, de voir comment s'adapter à la force qui va leur être opposée, tout simplement?
Comme je vous disais tout à l'heure, la police nationale d'Haïti n'a jamais cessé de faire des interventions, n'a jamais cessé de protéger la population, évidemment avec les limitations que vous connaissez. Et donc, en ce sens, probablement, oui, je présume que les gangs sont en train de se positionner. Mais ça, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire pour sûr, c'est que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure que dans un délai pas trop lointain, l'État reprendra le contrôle de tout le territoire national.
Jimmy Cherizier, c'est un puissant chef de gang que l'on appelle Barbecue. Il a fait savoir qu'il était prêt au dialogue la semaine dernière. Est-ce que vos équipes ont des contacts avec lui? Est-ce qu'on discute, quand on est le gouvernement d'Haïti, avec les gangs?
Comme j'ai répondu à cette question il y a déjà quelques semaines, il faut d'abord déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État avant tout dialogue. C'est ça la première démarche. Vous déposez les armes, vous reconnaissez l'autorité de l'État et ensuite on verra.
Gary Conille, merci.
Merci à vous.
Le Premier ministre haïtien avec à Washington, Guillaume Nodin, version longue de l'entretien à retrouver dans le journal d'Haïti et des Amériques à 13h10 TU et bien entendu à tout instant sur RFI.fr. 9h21, à la une de la presse internationale, Frédéric Couteau. Ce matin, Macron et Biden, deux présidents en mauvaise posture.
Oui, l'un risque une fin de mandat bancale avec une cohabitation inédite avec l'extrême droite. L'autre risque une fin de mandat chaotique avec la perspective de voir Donald Trump lui succéder. Démocratie à l'hosto, s'exclame Lorient Lejour à Beyrouth. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit deux grandes et orgueilleuses démocraties occidentales endurer de concert une crise aiguë, susceptible même de commander leur admission en soins intensifs. En ordonnant la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron escomptait susciter un sursaut républicain capable d'enrayer le raz-de-marée d'extrême droite apparu lors des récentes élections européennes. Le président français croyait, tel Aladdin frottant la lampe magique, libérer à son service le génie de toutes les revanches. Eh bien, il n'a fait en réalité couvrir la boîte de Pandore, s'attirant la colère et la désaffection de ses propres partisans, ainsi que les sévères remontrances de la presse du vieux continent, haro sur l'imprudent.
Lorient Lejour passe ensuite à la situation aux États-Unis.
Ce que l'on n'arrive pas à croire, c'est que cette superpuissance qui a débarqué sur la Lune et qui ambitionne de dominer la Terre n'ait soudain d'autre choix de leadership à proposer à ses citoyens, mais aussi au monde, que celui-ci, un Joe Biden qui n'est clairement plus en pleine possession de toutes ses facultés, ou alors un Donald Trump qui ment comme il respire, qui déchire un traité nucléaire signé par son prédécesseur et qui, accablé de procès, bénéficie soudain de la mansuétude de la Cour suprême. Et le plus atterrant, conclut Lorient Lejour, est que les nouveaux tsars de la planète, les empereurs communistes de Chine, les théocrates d'Iran et les tyrans de moindre envergure ont beau jeu en ce moment de narguer les démocraties en difficulté ou malades.
El País à Madrid revient sur l'entre-deux-tours des législatives en France.
Le Front républicain, l'union de tous les partis électeurs de gauche et conservateurs contre l'extrême droite, ce front pourrait empêcher le Rassemblement national d'avoir dimanche la majorité au Parlement. Toutefois, prévient le quotidien espagnol, cette union des démocrates ferait bien de dépasser les circonstances de cette élection et de chercher des réponses à long terme au malaise exprimé par le vote ultra. La France, en effet, a besoin d'un front républicain, pas seulement pour dimanche prochain, mais aussi pour les années à venir, s'exclame encore le quotidien espagnol, un front qui désactiverait les raisons de voter Le Pen.
En effet, pointe le Süddeutsche Zeitung, avec 10 600 000 voix, les Le Penistes représentent actuellement le parti le plus important de France.
Oui. Pour de plus en plus de personnes, le Rassemblement national est un parti comme les autres. Alors s'interroge le quotidien allemand, comment les électeurs vont-ils se comporter dimanche? Les instituts de sondage sont dépassés. Les électeurs vont-ils s'abstenir ou bien iront-ils encore plus voter qu'au premier tour, selon qu'ils considèrent le RN au pouvoir comme une chance ou bien comme un danger? En tout cas, cela faisait longtemps, conclut le Süddeutsche Zeitung, que la politique française n'avait pas suscité autant de passion.
Et puis aux États-Unis, la presse favorable aux démocrates poursuit sa campagne en faveur d'un retrait de Joe Biden.
Joe Biden devrait se retirer maintenant, s'exclame le Washington Post. Il doit mettre son ambition personnelle de côté et annoncer qu'il se retire de la course. L'ensemble des démocrates devrait travailler à la nomination d'une liste rajeunie. Nous pourrions alors nous concentrer sur les problèmes et les solutions les plus importants pour notre pays. Comment Biden pourrait-il faire ce qui est le mieux pour le pays et le pire pour Trump? Trump, s'interroge de son côté le New York Times, eh bien, permettre aux délégués de la Convention démocrate de choisir un nouveau candidat. Biden a été un président vraiment important, estime le journal. Il a sauvé le pays de Trump en 2020. Il nous a sorti des jours sombres de la pandémie de Covid. Il a fait passer des lois essentielles pour reconstruire les infrastructures américaines. Il a renouvelé la dignité au travail. Il a favorisé la transition vers une économie verte. Et à la fin, il mérite que l'on se souvienne de lui comme celui qui a su quand et comment dire au revoir.
La revue de la presse internationale, signée Frédéric Couteau, elle est à retrouver sur RFI.fr et sur nos applications mobiles. 9h25 à Paris. Les sacs plastiques sont-ils toujours un fléau en France? La question d'environnement du jour en cette journée mondiale sans sacs plastiques. Il faut savoir que la France figure parmi les plus gros consommateurs de plastique en Europe. 4 800 000 tonnes utilisées chaque année, soit 70 kilos par Français et par an. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors pour lutter contre le fléau de la pollution plastique, la France a interdit la distribution de sacs jetables depuis 2017. Une avancée importante, même si cette interdiction ne concerne pas tous les sacs.
Non, cela concerne uniquement les sacs légers, dont l'épaisseur est inférieure à 50 microns. Les sacs plus épais sont encore autorisés, car on considère qu'ils sont réutilisables, ce qui n'est pas forcément le cas, loin de là. Mais les sacs légers ont beau être interdits, bien on les retrouve encore régulièrement dans les commerces, car les contrôles sont quasi inexistants. Et puis, bien, il y a des sacs plastiques légers qui restent autorisés s'ils sont biosourcés, donc faits avec des matériaux naturels, ou compostables. Stable, donc biodégradable. Mais selon Charlotte Soulary de Zero Waste France, eh bien, il faut se méfier de ces sacs compostables.
Le problème, effectivement, avec les sacs compostables, c'est qu'il faudrait pouvoir le trier de façon séparée, ce qui n'est pas fait. Et ensuite, en général, de composter de façon industrielle, ce qui n'est pas fait non plus. Donc, c'est typiquement une fausse alternative selon nous, puisque on reste sur l'utilisation d'un produit à usage unique.
Des sacs compostables, Igor, qui ne sont donc pas réellement compostables.
Et qu'il faut même éviter de composter dans son jardin. Dans un avis de novembre 2022, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, précise, entre ouvrez les guillemets, ces matières sont susceptibles de contribuer à une pollution de l'environnement et des aliments cultivés et présentent un risque pour la santé humaine. Nathalie.
Alors, Igor, il y a les sacs plastiques, mais il y a aussi les emballages plastiques qu'on retrouve massivement encore dans toutes les grandes surfaces.
Alors qu'ils ont été interdits, puisque ce sont des plastiques à usage unique. Mais là encore, il y a des exceptions. Charlotte Soulary de Zero Waste France.
Dans le cas des fruits et légumes, dont l'emballage plastique est interdit, on a un décret d'application qui a été poursuivi en justice à deux reprises par les industriels, qui ont obtenu un certain nombre d'exemptions pour des produits qui sont en réalité, de façon très fréquente, vendus en vrac. On se retrouve, en raison de ces exemptions, avec des fruits et des légumes qui continuent d'être vendus dans des emballages en plastique, alors même que ce n'est pas nécessaire. C'est ça qu'il faut changer.
Finalement, Igor, il manque une offre pour consommer différemment.
Exactement. Zero Waste France a fait des enquêtes auprès des consommateurs et une grande majorité est prête à se passer de sacs ou d'emballages plastiques à usage unique. Conscient, Nathalie, de l'absurdité de consommer pour quelques minutes du plastique, donc du pétrole, qui participe au réchauffement de la planète. Selon Charlotte Soulary, il faut maintenant que cela se traduise politiquement avec des interdictions réelles de tous les sacs plastiques à usage unique et économiquement, évidemment, avec de vraies alternatives durables à ces emballages qui ne le sont pas.
Oh, Igor Strauss pour notre question d'environnement du jour. Merci à vous. Dans une minute, l'actualité africaine sur RFI. Restez avec nous.
Ce mercredi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Le nord-est de la Grèce se rêve en nouveau carrefour gazier pour l'est de l'Europe et les Balkans. Aux côtés du gazoduc vers la Bulgarie, Alexandroupolis pourrait être la nouvelle porte d'entrée du gaz naturel liquéfié.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.
Le congrès Afrique et Océan Indien des professeurs de français se tient du 22 au 26 juillet à Kampala, en Ouganda, autour du thème « La langue française comme moteur du développement durable à l'ère numérique ». Au programme, débats, ateliers, rencontres et échanges sur la langue française. Le congrès des professeurs de français de l'Afrique et de l'Océan Indien du 22 au 26 juillet. Plus d'informations et inscriptions sur kampala2024.fipf.org en partenariat avec RFI.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
L'Afroclub, c'est le terrain des musiques modernes d'Afrique et de sa diaspora, avec d'abord une sélection des derniers sons de la nouvelle scène. Des artistes locaux aux stars internationales, vibrés au rythme des musiques urbaines. Et dans notre rubrique Actu, ne manquez rien de ce qui fait bouger les arts et la culture sur le continent.
Chaque mercredi, retrouvez l'Afroclub et faites le tour des tendances musicales afro-urbaines avec musique.rfi.fr.